Aujourd'hui avec le père Maxence Bertrand.
Le cénacle aimait l'église. Il y a bien des moments de notre vie où le temps s'arrête un peu, où la profondeur des relations prennent toute la place. Souvenez-vous la veille d'un mariage, toute la famille se retrouve, les frères et sœurs, les parents. On oublie un peu le travail, les difficultés quotidiennes. On se remémore des souvenirs. Il y a une forme de densité de relations très forte, des histoires qui remontent, qui se racontent, de l'humour, de l'émotion, des larmes peut-être. Parfois même, c'est ce genre de moment qui arrive lors d'un décès, à la veille de la célébration, et ceux qui sont là se retrouvent et échangent, tout le monde est un peu hors du temps. Mais étrangement, on ne se trouve pas hors de la vie. Il y a quelque chose de très vrai, et c'est pour cela qu'on garde de ces moments une espèce de nostalgie. On se trouve un peu hors du temps et en plein cœur de la vie. Le soir de l'Ascension, Jésus a dit aux apôtres « Vous ne verrez plus de vos yeux de chair, vous ne me verrez plus de vos yeux de chair. Je reste avec vous tous les jours, mais vous ne me verrez plus. Je vous enverrai une force, celle de l'Esprit-Saint. » Quand Jésus leur a dit cela et qu'en effet, il a disparu à leur regard sur le mont de l'Ascension, ils sont retournés à Jérusalem dans cette pièce où Jésus avait célébré la première messe, où ils avaient passé les dernières heures avec lui, où il leur avait parlé de sa mort, de sa résurrection, de l'Église, de l'immense défi de l'unité entre eux. Pendant ces 10 jours, entre l'Ascension et la Pentecôte, je pense qu'il y a eu là, avec la présence discrète et maternelle de la Vierge Marie, ce même genre d'ambiance. Un peu hors du temps, mais en plein cœur de la vie. Une ambiance très spéciale, très profonde. Ils ont prié ensemble. Certainement, ils se sont souvenus des 3 années passées avec Jésus qui avaient tellement basculé leur existence. Peut-être que chacun a raconté la première fois où ils avaient été saisis par le regard de Jésus, les miracles, les signes, les discours. Et pourtant, ils n'avaient pas toujours connu cette harmonie. Dans les 3 années qui avaient précédé, dans la suite de Jésus, ils étaient bien souvent entrés en conflit. Certains d'entre eux avaient essayé de se préparer des places auprès de Jésus, à sa droite et à sa gauche. D'autres, à un certain moment, alors que Jésus marchait devant eux, étaient préoccupés pour savoir qui avait le plus d'influence entre eux. Et jusqu'au soir du Jeudi Saint, où juste après l'institution de la messe, de l'Eucharistie, ils se sont à nouveau écharpés pour savoir qui livrerait Jésus et surtout qui serait le plus fidèle d'entre eux. Bref, ça n'avait pas été très simple. Et la Vierge Marie le savait très bien. Elle avait certainement assisté à ces disputes un peu immatures, à ces manœuvres superficielles, et elle connaissait avec bienveillance, mais avec lucidité, le cœur de ses disciples, le cœur des disciples, leur fragilité et leurs espoirs. Probablement, elle s'est jointe à la prière de Jésus pour l'unité. Au pied de la croix, elle a reçu comme mission de prendre chez elle Jean comme un fils. Et elle a perçu tout de suite dans cette demande de son fils, du Christ, qu'il s'agissait de l'Église tout entière. Elle devenait la mère de l'Église. Elle accueillerait Jean, mais au travers de ce disciple bien-aimé, c'était toute la communauté des disciples, toute l'Église de tous les temps qu'elle accueillait chez elle. Pendant ces 10 jours, Marie a prié avec les 11 apôtres. Pendant ces 10 jours, peut-être qu'elle a parlé avec chacun d'eux. Et probablement, plus elle parlait avec eux, plus elle devait sentir l'Église naître dans sa catholicité, dans son universalité. Elle savait bien qu'il n'y avait pas grand-chose sur le plan humain qui rapprochait ces hommes que son fils avait choisis. Il y en avait 4 qui étaient de simples pêcheurs de Galilée, 2 ou 3 qui avaient été membres du parti intégriste des Zélotes et qui voulaient prendre les armes pour reconquérir Jérusalem, 1 au contraire qui était proche de l'occupant romain puisqu'il collectait des impôts pour Rome, 2 autres qui avaient encore des affinités avec le monde grec méprisé par les Juifs, puis certains encore qui étaient pharisiens. Bref, pendant 3 ans, le seul point commun entre ces hommes avait été leur attachement à Jésus. Alors la Vierge Marie est invoquée comme mère de l'Église. Elle est mère de notre unité. Elle est mère et éducatrice des peuples. Elle porte dans son cœur de mère, elle porte dans sa prière, elle porte dans son intercession les familles des nations et des peuples. Elle porte en son cœur l'immense carte du monde. Et comme l'étoile qui nous guide dans la nuit, elle guide la marche de l'Église vers la lumière qui ne connaîtra jamais de déclin. Chers amis, la Vierge Marie nous apprend à aimer l'Église, qui réunit en son sein des hommes et des femmes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Demandons-lui d'aimer l'Église pour ce qu'elle est. Demandons-lui d'aimer l'Église qui est à côté de chez nous et aussi celle qui est à l'autre bout du monde. Demandons-lui d'aimer l'Église de Rome qui préside à la charité. Et au milieu des péchés et des pauvretés de ses membres, parfois dans la confusion, demandons à la Vierge Marie de continuer à éclairer la route de l'Église, parce qu'elle avance vers ses noces éternelles. Elle marche à la rencontre du Christ, son époux fidèle.